ensemble, ici. Radio Libre, la radio des initiatives.
Bonsoir. Une petite chanson qui s'appelle L'Engrenage.
Damien Jourdan au chant et à la guitare, Pierre Coutoudier aux percussions. Est-ce qu'on est dans l'engrenage ?
On est dans l'engrenage, et donc dans la troisième et dernière partie de cette émission, on va parler de coopération. On a commencé à en parler un peu tout à l'heure avec Delphine donc, autour du PTCE, avec Jérémy par rapport au parc. Et puis voilà, on va continuer de parler d'initiatives aussi. Donc on a toujours des gens qui portent des initiatives là autour de la table. Donc Perrine Dion du CEDER, Toto de l'École de musique de Buy, Jérémy qui est toujours là, Delphine et Daniel Grunberg. À toi, Benoît.
Alors cet engrenage, on en est où ? Peut-être d'abord revenir un peu sur ce PTCE, SS, qui n'y sont pas. Ben ouais, parce que le côté économie, enfin tout ça, c'est lié effectivement, comme nous le rappelait aussi Gérard, que les activités culturelles sont génératrices d'images de marque, de liens sociaux, d'économie, et on peut mettre ça dans le désordre, on peut
embrasser. Ça fait du bien.
Et ça, voilà, on devrait commencer par le bien vivre. Peut-être que ça correspond au bien vivre ensemble. C'est un vocable qu'on a beaucoup entendu dans la bouche de nos politiques, mais moi j'aimerais bien leur poser la question finalement. Mais qu'est-ce qu'on met derrière concrètement? Et là, j'ai l'impression qu'avec le PTCE, on est dans le concret.
Donc, je vais répondre. Alors, pour le moment, on est plutôt... on est dans le concret au niveau de la collaboration, enfin, au niveau de la coopération, donc, parce qu'on se met tous autour de la table. On est moins dans le concret au niveau du faire, parce que c'est plus dur, que ça demande des moyens et du temps à des petites structures qui ont besoin du soutien des politiques pour s'organiser entre elles. Et donc pour que les coopérations deviennent et les collaborations deviennent des choses concrètes, je pense qu'il faut le soutien des politiques, parce que des petites structures en milieu rural n'arriveront pas toutes seules.
Alors quand on veut dire, quand tu dis soutien des politiques, qu'est-ce que concrètement justement, qu'est-ce que c'est que il faut que le projet à la base soit soutenu.
Eh bien, je pense que la coopération, elle se fait de quand le projet naît, donc que tout le monde soit autour de la table, dans déjà comment il est pensé. Si les acteurs sont tous seuls à le penser, peut-être que ça ne correspondra pas aux orientations politiques. Enfin voilà, déjà dans la co-construction avec les politiques publiques, c'est le truc de base. Après, les subventions, c'est autre chose. Il y a aussi des techniciens qui travaillent pour nos collectivités et qui ont des compétences et qui peuvent aider les acteurs à s'organiser aussi entre eux. Et je pense que c'est un des rôles aussi du parc, puisque Jérémy, il est là pour le représenter. Donc ils ont des techniciens, ils peuvent s'impliquer dans les dynamiques collaboratives et qu'elles restent pas que entre acteurs. C'est bien que les acteurs s'organisent entre eux, mais c'est bien qu'ils soient suivis
entre acteurs et pas entre acteurs. J'ai cru comprendre. C'est bien ça. PTCE, il y a une particularité quand même sur ce type de projet, puisque les élus sont aussi à l'intérieur du projet, où ils peuvent y être.
Alors si on parle vraiment de qu'est-ce qu'un PTCE en France, il y a plein de dynamiques qui existent, mais aujourd'hui les pôles territoriaux de coopération économique qui ont des financements sont effectivement des pôles de coopération qui intègrent des collectivités publiques ou en tout cas des représentants des EPCI, des établissements publics de coopération intercommunaux, qui représentent en tout cas le rôle que les collectivités soient partie prenante dans l'histoire.
Et concrètement, il y a déjà un petit peu un embryon de quelque chose qui...
En France, il y a 20
protestants.
nous, on est de fait un collectif qui s'organise et on s'appelle PTCE parce qu'on
trouve que ça...
Parce que ça correspond à un pôle de coopération territoriale.
D'accord.
Non, en fait, l'idée est simple, quoi. C'est simplement des acteurs, des gens, en fait, qui bougent dans le coin, qui se sont rassemblés pour essayer de fonctionner ensemble et de créer de l'économie ensemble, quoi.
Mais en termes de projet, la question c'était, est-ce qu'il y a quelque chose un peu de concret qui commence à se dessiner sur ce PTCE ou une idée?
Alors concrètement, ça dépend. Quand on parle des besoins des acteurs et des besoins qui s'identifient pour les populations, c'est effectivement des logiques économiques. Donc les acteurs se demandent comment demain ils pourront vivre et que peut-être ensemble ils pourront trouver des solutions. Ils peuvent avoir des problématiques de locaux et pourront peut-être trouver ensemble des solutions. Et
on en est à la phase évaluation des besoins.
On est dans la phase stratégiquement, qu'est-ce qu'on fait ensemble pour. pour que demain il y ait quelque chose qui existe. Donc on a lancé en octobre, on va essayer de faire une première journée économie sociale et solidaire pour essayer d'expliquer déjà ce que c'est fin octobre. Et donc on fait aussi un appel, on veut faire ça le 23-24 octobre avec le collectif du PTCE. Et donc ça c'est une des premières initiatives visibles du PTCE, c'est de faire deux jours où il y aura des concerts, une projection au ciné Arlequin qui va être partie prenante aussi, et puis que tous les acteurs du collectif puissent faire des choses le samedi après-midi, des ateliers qui seront ouverts aux gens, etc. Mais je pense que c'est qu'un exemple des organisations collectives qui sont sur le territoire, et qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc je pense qu'on peut dire aussi une journée qui va être faite avec Ensemble ici, le collectif qui est à but pour la qui s'est organisé pour la fête de la musique, enfin tout.
Merci Delphine, je vous garde.
Merci Delphine.
Daniel, tu as fait la transition. Ou Daniel, peut-être d'abord.
Je peux dire quelque chose sur l'économie, c'est ça qui m'intéresse. Oui, je suis Daniel, j'habite à Nyons depuis 4 ans, à peu près, je crois. Et je fais partie d'un mouvement qui est mondial, qui s'appelle les villes et territoires en transition. Et dans, pardon, dans ce mouvement, justement, on a créé quelque chose qui s'appelle la re-économie. C'est-à-dire qu'on regarde l'économie d'une autre manière. Et puisque la transition, ça représente vraiment, c'est les citoyens qui font ce qu'ils font, c'est tout à fait horizontal. C'est du down. C'est pas du top-down, c'est du down-top. Je ne peux pas dire ça en français, mais enfin bon, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Alors la re-économie en Grande-Bretagne, et certainement il y a des exemples. Bah, pour moi, la Bias à Nyons, c'est un genre de re-économie, parce que c'est les producteurs qui se sont mis ensemble, qui vendent leurs produits, et ils le vendent à Nyons. Ça, c'est une re-économie. Et la re-économie, c'était très important. Et à Totnes, où vraiment le mouvement de la transition est né, c'est dans le sud-ouest de l'Angleterre, ils ont fait des soirées où ils ont invité beaucoup d'entrepreneurs, donc qui avaient pas mal de finances, et aussi des gens avec des idées. Et ils ont mis les gens ensemble, et les gens se sont mis à rêver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer notre économie locale? Parce que c'est toujours local, local, local. Et est né de ce projet une... qu'est-ce que c'est? Où on fabrique une fabrique de bière? Comment vous appelez la brasserie?
Une brasserie.
Bon, une brasserie.
Tu dirais une brasserie?
Comment?
Quel mot tu emploies pour brasserie? Je sais pas, en anglais, je sais pas.
Brewery.
Brewery, ok.
Brewery, c'est ça.
Ben voilà. Merci.
Et effectivement, c'est un vieux bâtiment qu'ils ont pris. Il y avait des tas de problèmes, puisque les citoyens étaient vraiment pour cette brasserie. Et ben, ça existe maintenant. Et le gars qui a commencé la transition, il est un des présidents de cette brasserie. Tout le monde est très content. C'est une manière de faire les choses sur le micro, sur le macro. J'ai découvert un gars, et vraiment, je vous demande de l'étudier, ce gars. Il s'appelle Gunther Pauli. Quelqu'un a entendu parler de lui?
Pauli.
Non. C'est le gars, vous connaissez la marque Ecovert? Eh ben, c'est lui qui est l'inventeur, c'est lui qui a commencé la fabrique d'Ecovert. Je viens de le découvrir l'autre jour sur YouTube, et ça m'a complètement... J'étais époustouflée, parce qu'il fait la re-économie sur le plan macro. Alors, il a écrit un livre pour le Club de Rome, et il a complètement changé tout. Alors, un exemple, parce que je ne veux pas continuer à parler, mais un exemple, c'est inspirant. Et je voudrais que le maire est parti, malheureusement. C'est inspirant parce que les citoyens, ils ont créé, c'est pas lui seulement, ils ont créé 70 000 emplois à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et ces gens-là ont fait pousser des champignons sur les toits des hôtels, et ils ont produit la spiruline, et ils le vendent à un demi-euro le kilo. Et il n'y a pas de banque. Les banques, ça n'existe pas. Ils échangent les sous sans banque.
Comme ça, comme quoi, on n'en a pas besoin.
Je n'ai pas les détails parce que j'étais tellement émerveillée par son discours la première fois qu'il faut que je le réécoute. Et puis, c'est tout en anglais. Alors, je ne peux pas dire, allez vous inspirer si vous ne comprenez pas l'anglais. C'est
fichu. Ah,
mais il y a tellement de choses à faire en tant que l'économie. Si seulement on sort de la boîte,
Alors, l'économie, ça commence par le local.
Absolument.
Et du coup, on est déjà dans les
tu n'as pas compris. La rue-économie, ça commence par une brasserie.
Oui, pardon.
Ça, c'est important.
J'étais trop vite, j'avais oublié une étape.
Et ça, c'est important.
Et on a une alliance, effectivement, et il y en a plein. Et on n'est pas loin de l'écologie.
Mais il y a cette idée, enfin, bon, juste pour rebondir, parce qu'en plus, ça permet de faire un lien avec le CEDER, mais par rapport à cette idée de transition, de relocaliser l'économie, de fonctionner de manière horizontale, et puis de comprendre que finalement, en fait, quand on a compris que c'est nous qui faisons l'économie, et que finalement, il suffit de s'approprier ce qu'on fait nous, quoi. On a essayé de faire une initiative l'année dernière à Puymera, donc en partenariat avec le CEDER, justement, autour de, bah justement, pour essayer d'impulser un petit mouvement de la transition localement. Donc, la thématique, c'était la transition. Il y avait plusieurs ateliers, ça a duré. Bon, il y a eu une grosse préparation pour cet événement-là. Il y a eu du monde qui est venu. Et puis, des ateliers de discussion autour à la fois de l'entraide, de la culture, de l'écologie et de ce qu'on
pourrait faire. Proximité,
en parlant aussi concret, quoi, d'une manière. Parce qu'on est souvent, quand on commence à parler de tout ça, on a souvent des mots un petit peu valises qui reviennent et dans lesquels on peut mettre un peu tout et rien, et finalement on a du mal à s'entendre parce qu'on croit qu'on est tous sur les mêmes projets, en fait on met juste pas les mêmes choses derrière les mêmes mots, et une fois qu'on s'en rend compte, ça capote. Ça se passe parfois comme ça, et là l'idée c'était de juste se mettre ensemble et de parler concrètement qu'est-ce qu'on peut faire localement pour impulser ça. Donc c'était une première petite étincelle qui avait été lancée l'année dernière, qui a malheureusement au niveau des suites n'a pas beaucoup poursuivi, faute de relance.
C'est difficile de passer à l'étape concrète, hein. Pourtant il y a des choses qui avaient été pas très complexes, des projets qui devaient avancer, et voilà, les disponibilités de chacun, le bénévolat, je sais pas, c'est pas évident. Mais ça veut dire aussi que peut-être il faut y revenir sur ce type de journée d'échange pour que ça devienne peut-être plus automatique dans le mode de pensée.
Et on y reviendra justement le 26 septembre à Curnier, donc avec une rencontre avec plein d'associations, plein d'habitants, enfin, plein de tout type de gens pour venir discuter de ce qu'on peut faire concrètement, localement, pour faire bouger les choses sur tous les plans.
C'est super important, et ce que je voulais dire aussi, c'est que un des gros défis, je préfère ce mot que problème, parce que problème, ça me donne l'image de me foutre la tête.
Défi, c'est très bien, c'est beaucoup mieux.
Défi, je préfère dire. Le grand défi, c'est que pour le moment de la transition, il y a on touche moins que 1% de la population. Alors, il y a du boulot à faire, hein, mais il faut raconter, parce que la terre et l'environnement, c'est une histoire. Mais la vieille histoire est en train de s'effondrer, je n'ai pas besoin de vous dire. Elle ne s'est pas totalement effondrée, ça va venir bientôt. Mais il faut raconter de nouvelles histoires. Et il faut essayer de toucher ces 99% de la population qui ne sont pas, pas seulement la transition, mais d'autres mouvements qui ne sont pas dans ces mouvements. Parce que les slogans et le moi citoyen et tout ça, ça ne leur porte pas. Il faut raconter d'autres histoires, et ça on peut le faire, mais il faut, je crois, il y a dans la transition et un grand truc qui c'est le changement social à travers les arts,
prise de conscience
de trouver une manière de différente. Il y a un tout petit truc, c'est une femme dans un quartier à Londres qui écrivait des lettres à son membre du Parlement. Et elle n'était jamais contente de ce qu'elle faisait. Elle était écolo et le membre du Parlement, pas trop. Alors, à la fin, elle en a eu marre, la membre du Parlement, elle lui a plus répondu à ses lettres. Alors, la fille, elle n'a pas abandonné son idée. Elle a commencé, elle faisait de la couture, elle a commencé à faire un petit, comment on dit, smiley face ? Le petit.
Sourire ?
Oui, les trucs qu'on a sur Internet, là. Smiley. Elle a, sur un bout de tissu, elle lui a envoyé. Dans un courrier, elle lui a envoyé. Et après, ça a complètement cassé le truc. Ils sont devenus amis, elle a commencé à lui parler. Mais ça, c'est un truc. On se dit, mais c'est complètement. C'est con, c'est un peu con. Mais c'est une manière autre de prendre un contact. Une fois que la citoyenne, le citoyen, a contact avec leur personne politique, eh ben, on peut commencer à faire bouger
les choses. On peut travailler, effectivement.
Merci, Daniel.
C'est une belle histoire, hein, c'est presque une histoire. Une conteuse, hein, Daniel.
Oui, j'aimerais bien.
Et on est dans l'écologie, on est dans la proximité aussi. Merci au CEDER d'être présent. Alors, comment ça se passe du côté du CEDER ? Il y a beaucoup de choses. C'est quand même une grosse association. C'est un événement très important sur le Niamsay aussi.
Oui, alors moi je remets un petit peu en arrière parce que il y a eu tout un échange sur les projets, sur le soutien des élus. Alors c'est, on va dire que c'est un peu une prise de position personnelle, mais c'est à travers le CEDAR je le vis. Moi je trouve que les élus sont quand même très prudents et très spectateurs de tout ce qui se passe. Ils attendent qu'il y ait beaucoup de choses qui viennent des citoyens. Je pense que le PTCE en est un aussi en disant on va voir ce qui se passe, qui bouge, comment, pourquoi. Et puis si ça marche, on soutiendra. S'il faut, mais pas trop. Enfin, voilà, moi j'ai beaucoup ce sentiment-là que les élus sont beaucoup sollicités, mais du coup ils viennent pas volontairement et facilement vers des projets qui sont porteurs. Tout à l'heure j'entendais les festivals qui arrivent pas à avancer, à se développer, voire qui meurent. Et je pense que il y a beaucoup de prise de position politique qui fait qu'il n'y a pas de suivi, ou c'est trop petit, il n'y a pas assez d'image de marque. Donc je trouve que c'est dommage parce qu'il y a des choses qui valent vraiment le coup. Après il y a l'histoire du territoire. Donc Gérard en parlait très bien tout à l'heure, c'est qu'est-ce que ça va rapporter et quelle image on va avoir derrière. Donc voilà, ça c'est mon petit clin d'œil. Et c'est vrai qu'au CEDER, eh ben, on a une grosse manifestation qui est la foire écobiologique, où il y a des salariés qui s'en occupent. Donc en partie, enfin en tout cas tous les salariés du CEDER organisent, sont sur le pont le jour J, et après on a 40 bénévoles autour. Et c'est là où du coup on peut pas demander la même implication aux gens. Les financements qui sont autour viennent de programmes qu'on a un peu détournés pour faire une belle manifestation qui est notre gros événement. Mais sans les bénévoles, on serait pas grand chose. Et voilà, mélanger le bénévolat et le salariat, c'est compliqué. C'est faut aller convaincre les gens que ça vaut le coup, que derrière il y a un retour, qu'on avance, qu'on va toucher des nouveaux publics. Alors là, je rejoins Daniel, où nous, notre mission. C'est la mission du CEDER. Je réponds à la question un peu de façon détournée, mais on essaye de toucher les gens non avertis, non réfractaires, parce que tous les avertis, on les a touchés depuis plus de 10 ans dans notre mission d'espace info énergie, et qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à tous ceux qui ne sont pas passés à l'action au niveau du changement de comportement ou dans les énergies renouvelables puissent avoir le déclic. Comment se poser la question, une prise de conscience, on est là pour les informer, et après les accompagner. Et c'est là où c'est compliqué, parce que dans le changement, y a un moment où on se dit, non, pourquoi les autres ils le font pas, je le ferai. Et puis il faut être là au bon moment, les accompagner jusqu'au bout et puis les faire jouer, leur raconter une belle histoire. Donc au CEDER, on a mis en place un projet éco-consommation qui est soutenu par l'ADEME, ministère de l'Environnement. Donc là, ils ont été bien inspirés. C'est un projet expérimental en Rhône-Alpes depuis 2009. Et ça marche super bien parce que les gens, on leur fait faire des choses rigolotes, quoi. Donc après, ils deviennent ambassadeurs et là, ça démultiplie l'action et c'est génial. Donc c'est un peu ce qu'il faudrait arriver à faire pour motiver les gens en leur disant regardez, un jour on fait des choses sympas, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour votre santé, c'est pour la planète, c'est pour votre porte-monnaie aussi. Ça c'est l'entrée en matière absolue. Mais effectivement, dire aux gens ça ne coûte rien, c'est joli et ça fonctionne, là on a tout gagné. Voilà, donc
on a tout à gagner.
Mais on a aussi tout gagné parce que les gens, ils réalisent vraiment plein de choses et ils ont envie de partager. Moi, j'ai une copine qui fait des meubles en palette pour toute sa famille, tous ses copains, et je trouve ça génial, alors que c'est parti juste d'un atelier au CEDER pour la semaine des déchets, et ça se démultiplie. Donc l'idée, ça serait que tous les projets puissent avoir un peu cette portée-là. Après, un jour, on va nous envoyer des financements certainement sur ce projet-là parce que ça fonctionne. C'est comme le photovoltaïque et les énergies renouvelables, maintenant ça marche, les prix sont hauts, on enlève les subventions, plus personne ne peut se les payer. Voilà, donc on reprend tout à la base, il faut que l'économie se rééquilibre et qu'on redémarre sur des bases où on se dit, on a des valeurs à partager, on a des choses à faire ensemble, et puis on va faire pour nous, pour la planète, parce qu'il faut sauver l'homme sur la planète avant tout.
Il est grand temps. Vous parliez des élus, c'est vrai que moi je me pose toujours la question, j'ai l'impression, d'abord un constat, au sein des associations, les élus sont souvent membres de droit au conseil d'administration. Mais est-ce qu'on les voit ? J'ai pas l'impression. Assez souvent, c'est dans pas mal d'associations, j'ai l'impression. Mais en tout cas, qu'ils soient membres de droit ou pas, ils viennent pas bien. Et je trouve que c'est dommage parce que ce serait d'abord la première chose qu'ils auraient à faire pour pour vivre les choses au sein de l'association, du projet d'une association, plus les comprendre, plus les défendre peut-être, y compris financièrement quand il faut.
Alors, je crois que Gérard a agi, peut-être quelque chose à dire, non ?
Non, mais les élus ne sont pas membres de droit, et si tu veux qu'ils viennent, les élus, invite-les, quoi.
Oui, non, mais ils sont invités, mais il y a pas mal d'associations où, étant membres de droit, on ne les voit pas plus. Oui, j'ai mal exprimé.
Il y a longtemps que j'ai lu la loi 1901, mais je ne pense pas que les élus soient membres de droit des associations. Ils sont membres de droit s'ils sont invités.
S'ils sont fondateurs.
Et si c'est des associations paramunicipales, des choses comme ça. Mais les élus ne sont pas membres de droit de toutes les associations. Et heureusement.
Heureusement, je dis pas
heureusement.
Je me suis mal exprimé, je disais pas qu'ils étaient membres de droit dans toutes les associations, mais quand ils sont membres de droit, qui sont invités chaleureusement à participer aux travaux de l'association, par exemple en matière culturelle, ça arrive, et malheureusement, on les voit pas souvent, je trouve, en tout cas trop peu souvent, et c'est difficile d'arriver à justement à les convaincre. Et quelquefois, le milieu associatif est là aussi pour pallier un manque de des structures au niveau de la commune, qui peut pas tout faire non plus. Mais j'ai l'impression que ça marche pas bien, ce truc-là. Et c'est dommage, on parle des élus, ils étaient là tout à l'heure, ils sont plus là, bon, mais... Oui, Daniel.
Je voudrais juste dire une chose, c'est que à Ungesheim, donc vous avez certainement pas entendu parler, c'est un tout petit village en Alsace, pas loin de Mulhouse, le maire a lancé il y a quelques années la transition. C'est le maire, c'est très, très, très curieux, c'est le maire qui a lancé ça. Je sais pas la taille du village, mais c'est vraiment... pas très grand. Et ils sont effectivement un village en transition. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et ils font un festival au mois de septembre pour fêter la transition. Et c'est le maire qui fait... Il crée des forums ouverts. Ah, c'est ça qui est important. J'allais oublier. Il crée des forums ouverts avec la population. Donc la population vient et donne leurs idées. Et c'est pas parce que moi ça me faisait peur, j'ai dit c'est le maire qui commande à tout le monde ce qu'il faut faire. Non, c'est pas ça. Il a lancé ça, mais c'est les gens qui décident ce qu'ils vont faire.
Bien dit, belle idée. Merci de nous raconter ça, parce que c'est ce genre d'initiative, on ne sait pas, et c'est très intéressant et porteur.
Il y a quand même une expérience pas très loin de chez nous, c'est à Saillant.
Qui est une expérience très intéressante aussi. Oui. Donc une mairie participative, quasiment, où c'est les gens finalement qui font la politique locale, via des instances de démocratie participative.
Mais tu sais, nos élus, ce sont des gens aussi.
Oui, et que du coup il y a des mandats, et que du coup il faut répondre à un électorat, et que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui bloquent aussi à ce niveau-là, dans le sens où il y a des initiatives qui sont lancées, mais ils savent qu'il va y avoir des élections qui vont arriver aussi dans quelques années, et qu'il va falloir aller dans le sens finalement l'espèce de l'opinion publique, quoi, cette espèce de concept autour duquel on n'arrive pas
à d'aller mettre les mains dans le cambouis, quoi. Il faut accepter d'aller se confronter à la réalité de la gestion d'une commune. Ça doit pas être de la tarte de gérer une commune comme Lyon ou comme plein d'autres. Attends, vas-y.
Moi, je rejoindrais juste Gérard sur la notion de les élus sont des citoyens. Je pense qu'il ne faut pas que nous, on a peut-être trop souvent tendance à dire comme Benoît, parce qu'on a un peu la niaque, parce qu'on n'y arrive pas, de dire les élus, ils sont où ? Ils sont pas là pour se défendre. Mais les élus, c'est des citoyens comme nous. Je pense que c'est leur rôle de soutenir, d'aussi déléguer à des assos qui ont des missions d'intérêt général, et que peut-être que des fois, alors peut-être c'est moi qui fais la conclusion de ça, peut-être que des fois ils délèguent très bien cette mission d'intérêt général à des associations et qu'ils font confiance, alors peut-être que ça c'est un bon signe. Le fait qu'ils soient des fois pas là, c'est peut-être mauvais signe parce que ils se sentent moins acteurs, mais en même temps c'est pas forcément leur rôle d'élu d'être acteur, et je pense qu'il faut qu'on soit pas toujours ça. Il y a les acteurs d'un côté, il y a les élus de l'autre, et on a tous des intérêts différents, on a tous un intérêt global, général de vivre ensemble, et chacun peut tenir son rôle différemment.
Moi, je vais juste rajouter, je trouve que des élus dans une association, c'est pas la même chose. Au CEDER, on n'en a pas, même s'il y en a certains qu'on aimerait bien avoir ou avoir eu. Je pense qu'il y a quand même des enjeux politiques qui, à un moment donné, rentrent en jeu sur tout ce qu'il peut y avoir derrière, toutes les ouvertures, tous les projets, tout l'affichage, etc. Il peut y avoir aussi
pour desservir l'association en étiquetage, où du coup ça peut fermer des portes sur certains projets. Nous, justement, dans l'environnement, on avait plutôt tendance à être côté gauche, et puis on se rend compte que là il y a des nouvelles collectivités qui sont rentrées plutôt à droite, et on a plein de gens qui sont très intéressés par tous les projets qu'on fait, et nous on est ravis de se dire qu'on peut avoir des nouvelles portes qui s'ouvrent avec des nouveaux projets, des nouveaux enjeux, des nouvelles dynamiques. Donc finalement, je pense que c'est un bienfait qu'on n'ait pas forcément des élus étiquetés de façon forte dans l'association. Après, c'est toujours bien et pratique pour ouvrir certaines portes. Alors nous, dans le réseau, puisqu'on travaille beaucoup au niveau des espaces info-énergie en réseau, notamment à Rhône-Alpes, on a l'exemple dans l'Ain d'une association qui a vraiment des élus, des institutionnels, et le conseil d'administration est recruté par la directrice qui choisit vraiment les gens qui sont là. Et je trouve qu'il y a moins la dimension citoyenne, et du coup ça devient plus, je dirais pas du commercial, mais en tout cas une entreprise. L'association se transforme un peu avec des traits d'entreprise, et c'est pas la même chose. Donc je pense que des élus dans une association, c'est pas la même image et les mêmes dimensions de la structure.
Merci Fanny pour tout ça. Alors la montre qui
tourne un petit peu.
Merci Perrine, pardon. Avant de clôturer, peut-être un petit mot aussi sur notre initiative de mutualisation culturelle. Il y a eu la fête de la musique avant-hier. Et à Buis, donc est-ce que tu peux nous en parler, Jérémy? Et puis il y a Toto qui est là aussi de l'école de musique de Buis, qui, je crois, voulait dire un petit mot par rapport à ça.
Donc je vais commencer, et puis Toto pourra compléter ou corriger ce que je vais dire. Donc en fait, une initiative s'est passée à Buis-le-Baronnies sur un constat, c'est que à la fête de la musique à Buis, il n'y a pas grand chose normalement. Donc il y a eu l'idée de rassembler les acteurs locaux, qu'ils soient culturels mais pas que. Donc il y avait bien sûr les acteurs culturels, il y avait l'école de musique Notambule, il y avait aussi la Fétasie, mais aussi un groupe de musique Rock en Stock qui est situé là-bas. Mais il y avait aussi l'association de commerçants de Buis-le-Baronnies qui était présente. Il y avait aussi le comité des fêtes de La Roche. Et donc tout ce petit monde qui sont de la culture mais autres ont réussi ensemble à mettre...
C'est un bel événement alors.
Oui, c'était très sympa. Ça a permis de mettre en place sur toute une journée de 11h du matin jusqu'à 2h du matin le lendemain,
ouais.
Des événements...
C'est la fête de la musique, c'est ça.
Des événements multiples. Donc il y avait la fête de fin d'année de Notambule. Il y avait donc une batucada qui a traversé, il y avait une brocasique, c'est-à-dire une brocante sur la musique, et des apéros dans les bars. Tout ça en collaboration avec les bars et aussi avec la mairie de Buis qui grâce à eux a mis à disposition l'équipe technique qui a permis de faire que
dire. Et oui, je
que les bien se passent bien.
Toto, un mot sur cette fête de la musique.
Donc moi je vais parler sous la casquette de directeur de l'école de musique Notambule. On s'est vu avec les gens de la fête Azique assez rapidement parce que l'événement s'est préparé un peu tard pour essayer de mettre en place cette histoire de la fête de la musique. Je suis assez content parce que avec finalement très peu de moyens, comme d'habitude j'allais dire, on a réussi, comme vient de le dire Jérémy, à faire un événement sur la durée, sur la journée. Je crois que les gens étaient assez contents aussi. C'était très très local, presque tous les gens qui étaient sur scène habitaient dans le secteur. C'est une bonne chose parce que ça prouve que d'abord il y a une activité, en tout cas musicale, pour de vrai sur nos territoires. Moi j'en suis persuadé, hein, je vois ça à travers l'école de musique, que ce soit les jeunes, les adultes, les enfants. On a 120 élèves à l'école à Buis.
D'accord, oui, c'est une école qui fonctionne bien.
Pour nous, est quand même pas mal. Pour un mode de fonctionnement financier qui était assez pauvre jusque-là, cette année, miraculeusement, une subvention est arrivée, qui est évidemment, j'ai entendu parler tout à l'heure d'arrangements financiers, je dirais pas ça, mais une jonglerie pour arriver à avoir quelqu'un qui puisse intervenir en milieu scolaire. Donc c'est un peu la difficulté de toutes nos assos, c'est qu'il faut toujours jongler avec le financier, avec le politique. J'en profite aussi pour dire que je suis aussi un des responsables du Festival Les Lointaines, qui était un festival de musique du monde, de qualité, avec très peu de subventions. Comme quoi on peut vivre quand même comme ça, mais nous, on est à la différence de la Cigale, on fait un événement dans l'année. Donc on peut se défoncer sur un événement. Quand c'est une régularité qu'il faut, c'est plus compliqué à gérer.
Tout à fait.
Et puis je signalerai aussi qu'Événementiel s'occupe depuis presque 10 ans maintenant du Festival du Vent à Saint-Jal. Faire un festival à Saint-Jal qui est visité par à peu près 1 millier de personnes dans la journée, je trouve que c'est pas mal. Parce que quand même Saint-Jal, c'est un pays un peu reculé, on va dire, dans son territoire, et avec des spectacles de qualité. Je crois que les bénévoles coulent de source dans nos campagnes, parce qu'il faut que ce soit nous qui fassions vivre nos pays, et on a tout intérêt à les faire vivre. C'est comme ça qu'on intéressera nos jeunes, donc notre avenir, donc nous-mêmes.
C'est un très beau mot pour clore cette grande émission. On a été extrêmement bavard. On va réécouter des artistes qui sont là. Mais c'est bien d'être bavard. On a pris le temps. C'est ça qui est extraordinaire et qui est très bien. On va réécouter nos artistes qui nous attendent, qui sont prêts. Mmh. Damien Jourdan.
Tu as l'étoffe d'une héroïne, l'odeur, le goût de la mescaline. Tu ne comptes pas les heures pour couler le bonheur. Les vagues devant toi se tassent, le d'inconnu t'embrasse. Tu ne comptes pas les heures pour couler le bonheur. Je suis le seul à te voir. Je suis le seul. Et sans limite, à moins que tu ne prennes la fuite. As-tu assez de courage pour changer les couleurs? Et quand on t'a dit que ça fissure sur ta joue rose des coulures, c'est l'heure de déchiffrer ton unique code secret. Je suis le seul à te voir. Je serai le seul à savoir. Je serai le seul à te voir. Je serai le seul à te croire. Je serai le seul à te croire. Je serai le seul à t'avoir. Je serai le seul à te voir.
Pierre Coutaudier, on parlait de territoire, et bien Damien Jourdan est installé à Tolignan et Pierre Coutaudier est installé au Mirabel au Barony, pas très loin. Il est grand temps pour nous de clore cette émission. Et on va remercier d'abord la Bizarre Nomade et la Bizarre Radio de nous avoir
envoyé. Radio Bizarre. Qui est une menaçance de la Bizarre Nomade.
Voilà, c'est mieux dit comme ça. Merci Gérard beaucoup pour.
Je vous en prie, mais je veux bien revenir faire une émission ici quand vous, vous auriez une radio temporaire.
Eh bien, on fera ça. Rendez-vous
est pris. C'est un défi.
Quand c'est un défi.
Dans 6 mois.
Ce serait bien, oui, qu'on arrive à faire ça.
D'accord.
Très vite, en tout cas.
Mais c'est très vite, on va travailler dessus. Merci beaucoup pour ton soutien.
Alors, merci aussi, du coup, toute l'équipe de Radio Livre.
Toute l'équipe de Radio Livre.
Ensemble ici. Couleur Café. Merci beaucoup à Ilitch de nous accueillir. Qui d'autre, et puis tous ceux qui ont accepté de participer à l'émission, donc je ne citais personne pour n'oublier personne, mais vous les avez entendus.
Nos nombreux invités et les nombreux artistes aussi qui se sont joints à nous avec force sympathie. C'est bien de pouvoir réaliser un événement comme ça, même si c'est compliqué, hein, c'est pas simple hein, de préparer tout ça. Il y en a qui disent des bêtises là-bas, bien sûr. Et voilà, c'est pas simple parce que techniquement, il faut que tout ça fonctionne bien. En tout cas, c'était un grand plaisir. Merci à tous d'avoir été là. Bravo. Et bravo.
Et bravo.
Je crois que Toto est prêt.
Il faut bien.
On va mettre les micros, on va essayer tout ça.
Ouais, alors juste, j'en profite comme ça, il peut caler ma voix. Tout à l'heure, il y a les gens de Rock'n'Zoloul qui ont parlé et leur modestie a fait qu'ils n'ont pas dit la vérité. Si leur festival dure depuis aussi longtemps, c'est parce que c'est de la bombe depuis le départ. Même s'ils ne m'ont jamais embauché. Bon, avec mon ami Pierre Coutaudier, voilà, qui est un batteur tout à fait sympathique et lettré, ce qui, il faut le dire, c'est rare chez les batteurs. On travaille depuis quelques temps sur un répertoire de Jimi Hendrix, donc on va faire un peu de Jimi Hendrix, un peu à notre sauce à nous. Voilà, c'est parti. Lord, I'm a voodoo child. Yes, I'm a voodoo child. Edge of my hand. And if don't be doing them on this world, say I'm not trying by the wind. Cause I'm a voodoo child. Lord knows you, I'm a voodoo child. Don't be late. If I don't make your hair, Merci, à la prochaine. Et donc longue vie à Radio Olive. Hein.
Ensemble, ici, Radio Olive, la radio des initiatives.